C'est qu'il y avait une armée d'anges qui venait au milieu de nous et qui venait nous revêtir et nous revêtir d'habits magnifiques, d'habits de louange, d'habits de pureté, d'habits de grâce. Et ça, c'était quelque chose où Dieu voulait nous honorer parce que nous l'honorions. Et c'était la réciprocité du verset dans Deutéronome qui dit « Celui qui m'honore, je l'honorerai ». Et quelque part, pendant qu'on louait Dieu, eh bien, les anges venaient et nous revêtaient d'habits de fête, de louange. La deuxième chose que j'ai vue, c'est que quand nous proclamions la sainteté de Dieu, eh bien, le Saint-Esprit venait et nous entourait comme du sang de l'agneau. Et c'était quelque chose de merveilleux parce que Dieu, dans cette proclamation de la sainteté de Dieu, il nous disait « Moi aussi, je vous mets à part. Moi aussi, je vous mets à part. » Et c'est quelque chose de merveilleux parce que quoi que vous ayez pu faire, quoi que vous ayez pu vivre, quel que soit votre regard sur le monde, sur vous-même, eh bien, ma sainteté est pour vous parce que le sang de l'agneau, mon fils, a été répandu. Et c'était la grâce de Dieu qui était. Et en dernier volet, ce que je voyais, c'est que bien tout comme Jésus a tracé le chemin dans le désert, et on sait que eh bien il était à la pointe, c'était à la fois le rocher et l'eau, eh bien il a tracé la route aussi et que nous avions un libre accès auprès de lui. Et c'est ce que Paul nous rappelle dans les Épîtres, c'est que nous avons un libre accès auprès du Père. Et le Saint-Esprit m'emmenait, me conduisait dans ce temps de louange à dire la route est tracée où nul impur ne peut passer. Bien, amen, ça c'est merveilleux. Mais encore faut-il être considéré comme saint, mis à part. Et Dieu l'avait fait dans ce temps de louange, il nous avait entouré du sang de l'agneau, des habits de fête, des habits de louange. Alors j'aimerais que tu te tournes vers ton voisin et que tu lui dises, tu es vraiment saint, tu es vraiment mis à part, tu es vraiment lavé par le sang de l'agneau. Oh, alléluia, le Seigneur a tracé une route pour toi. Amen. Le Seigneur a tracé une route pour toi, non seulement aujourd'hui, mais pour cette année et pour l'éternité. Amen. Vous croyez ça? Amen. Alors, le thème de mon message, c'est comment faire une bonne rentrée. Alors, Anne-Lise nous a parlé de prendre de nouvelles habitudes et des bonnes habitudes et des habitudes selon le royaume de Dieu. Et Jean-Baptiste m'a promis qu'il le mettrait sur le site. Donc, cette semaine, allez consulter le site et écouter le message ou réécoutez-le si vous ne l'avez pas entendu parce que c'est un excellent message. Il faut le mettre en pratique. Alors, comment faire une bonne rentrée? Alors, j'ai lu un petit article dans le journal, dans l'Ouest France. Il y avait un psy qui disait « Comment faire une bonne rentrée ?» Et il donnait 7 conseils magnifiques. Et le premier conseil, il disait « Pas de stress !» Et il disait, quand vous rentrez au boulot, surtout, ne commencez pas par des tâches compliquées, commencez par des tâches faciles, cool. Voilà. Bon, j'ai trouvé que c'était pas mal comme approche. Parce que moi, je me rappelle quand je faisais mes rentrées de travail à la clinique, il y avait la méga pression. Je me disais, oh là là, il faut que je me reprépare. Et puis, je revoyais mes collègues de travail qui étaient, oh là là, déjà, ils étaient pliés en rentrant. Et puis, il y en a une qui disait, ah, moi, je suis à 100%. 2% lundi, 2% mardi, 2% mercredi, jeudi, et puis c'était 95% ou 94% samedi, dimanche. Voilà. Donc c'est un petit peu ça. Et puis le conseil du psy, le cinquième, j'ai trouvé ça assez extraordinaire, il disait planifiez vos futures vacances. Tout espoir n'est pas perdu, vous aurez encore des vacances. J'ai trouvé ça assez cocasse. Mais en fait, moi, en réfléchissant à tout ça, je me suis rendu compte que souvent, face à un redémarrage, quel qu'il soit, dans la vie quotidienne, que ce soit pour les gens qui reprennent le travail, les études, ou pour les retraités même qui repartent sur une nouvelle année, c'est que l'habitude de la vie nous fait redouter de retomber dans des mauvais travers, dans des difficultés, et souvent on se rappelle toutes les tracasseries qu'on a eues l'année d'avant dans notre travail, on se dit « Oh, je vais revoir telle personne, je vais revoir telle situation, c'est vraiment compliqué, etc. » Et en fait, la vraie question, c'est est-ce que nous redoutons de voir ressurgir les difficultés de l'année dernière, ou est-ce qu'on veut ouvrir un espace à Dieu qui trace le chemin, parce que nous sommes appelés à régner sur ce temps, dans toute l'année, pour amener la bénédiction de Dieu. Nous sommes appelés, mes amis, à régner. On va faire cette année une percée. Une percée dans le travail. Amen, Joao, tu es d'accord avec moi ? Alléluia ! On va amener le climat de la grâce et de l'amour de Dieu. On va amener une percée dans la retraite. Amen. Hein ? On va amener une percée dans les études, dans l'école, parce que nous sommes des agents du royaume de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. Ce que nous touchons est béni. Amen. Ce que nous disons porte la vie. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien mes collègues, quand je disais un malheureux mot qui n'était pas très français, ou trop français peut-être, ils disaient « Quoi Jean, tu dis ça ?» Oh là, qu'est-ce que je n'avais pas dit ? Aussitôt, je disais « Non, je vous demande pardon, je ne devrais pas dire des gros mots, je devrais dire que des choses bonnes. » Amen. Et qu'il y ait dans votre bouche quelques bonnes paroles qui communiquent la grâce à ceux qui l'entendent. La vraie question pour nous, c'est la vision qu'on a développée pendant le temps du repos. De quoi vraiment on s'est rempli pour affronter l'année qui vient ? De quoi on s'est rempli ? Et si vous ne vous êtes pas rempli de bonnes choses, de la parole de Dieu, rassurez-vous, Dieu dit, c'est pas trop tard. Aujourd'hui est un jour nouveau. Amen. Alors, ce que je voudrais vous partager, c'est une des premières choses, c'est de nous déposer aux pieds du Seigneur pour cette année qui vient. Qui c'est qui a envie de se déposer aux pieds du Seigneur afin que les projets de Dieu se réalisent pour lui dans cette année ? Amen. Levez les mains, levez les mains. Amen. Jésus a pris la photo. Et il dit, je suis d'accord avec toi, je vais te guider, je vais te conduire. Et il y a une chose qu'il faut qu'on comprenne, c'est que les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts pour nous. Mais sur la terre, eh bien c'est nous qui avons à ouvrir les portes. C'est nous qui avons à agir. C'est nous qui avons à défoncer les portes. Ce que l'ennemi ne veut pas que nous fassions, nous allons pulvériser l'œuvre du diable. Pourquoi ? Parce que le sang de l'agneau a été répandu sur cette terre. Quand Jésus-Christ a été crucifié, son sang a coulé sur la terre. Ça veut dire qu'il rachetait non seulement l'humanité de ses péchés, mais il rachetait aussi la terre entière du chaos, de l'écologie, de tous les désordres qu'il y allait avoir. Et vous savez de quoi était coiffé Jésus ? D'une couronne d'épines. Or, qu'est-ce que ça symbolisait cette couronne d'épines ? C'était la malédiction qui avait été prononcée au jardin d'Éden. Et j'aimerais relire cette parole dans Genèse 3, 17, 19. Il dit à l'homme, c'est Dieu qui parle, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme. » Ce n'était pas la femme en tant que femme, épouse et tout ça, mais c'était « Puisque tu as écouté la voix de l'ennemi quelque part, est bien, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, il te produira des épines, des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et on voit que, quelque part, le travail qu'il avait dans le jardin d'Éden, qui était magnifique, cueillette de fruits extraordinaires, des mangues comme tu n'en as jamais vu. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai mangé une mangue qui venait de la Martinique, direct de la Martinique. Mon vieux, c'était une mangue, elle était sucrée. C'était magnifique, c'était trop bon. J'ai gardé le noyau à la maison, vous pourrez le voir. Ah, c'était un avocat, pardon. Tellement c'était bon, vous voyez, à l'avocat. Enfin, j'ai toujours le noyau, vous pourrez le voir. Amen. Et il y a quelque chose qui est vraiment bon. Et puis, quelque part, à cause du péché, on l'a souillé, et il y a une malédiction qui est là, et c'est les épines, et c'est la sueur. Et souvent, dans le travail, qu'est-ce qu'on voit ? Bien, c'est à force de peine que tu tireras ta nourriture, il te produira des épines, des ronces, tu mangeras l'herbe des champs, que des catastrophes, quoi. Et nous, on voit souvent nos années comme ça, ronces, épines, difficultés. Eh bien, c'est pas la vision de Dieu. La vision de Dieu, c'est la bénédiction. Jésus est venu afin de nous donner la vie et de nous la donner en
abondance.
Redites en
abondance.
En abondance. Amen. Et c'est la qualité de vie de Dieu qui est projetée sur vous cette année. Alors, il y a un verset biblique qu'on doit apprendre absolument par cœur, et j'espère que vous le savez, Galates 3, 13. Voilà, qu'est-ce que j'ai sorti là? Je vous donne les premiers mots. Christ nous a rachetés
de la malédiction
de la loi. Comment? Étant devenu malédiction à notre place, car il est écrit « Maudit est quiconque, celui qui est pendu au bois ». Afin que nous reçussions quoi à la place ? La bénédiction qui a été donnée à Abraham. Jésus a été couronné d'épines afin que la malédiction qui était sur le travail soit ôtée et que nous puissions avoir à la place la bénédiction. Et qu'est-ce que c'était la bénédiction d'Abraham ? Toutes les nations seront bénies dans ta postérité. Amen. Ça veut dire que non seulement votre postérité est appelée à être une bénédiction, mais que vous-même, vous êtes un sujet de joie, un sujet de bénédiction, et que vous allez multiplier la grâce de Dieu autour de vous. Vous êtes un multiplicateur de grâce. Vous êtes un multiplicateur de vie. Partout où vous allez, le Saint-Esprit qui habite en vous se répand autour de vous. La bonne odeur de Christ se répand autour de vous, partout où vous allez. Pour ça, quand je parle aux visiteurs, je dis, avant même que vous entriez dans la chambre, le Saint-Esprit est entré. Et quand vous êtes en présence des gens, même s'ils ne vous reçoivent pas, Jésus frappe à la porte de leur cœur. Après, c'est une histoire secrète entre la personne qui est là et qui entend toc, 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 et Jésus. Ça ne vous appartient pas. Vous êtes, vous, des gens qui tracez la route pour les gens. Vous êtes de ceux qui brisez les portes de fer, les verrous de fer, vous les cassez. Pourquoi ? Parce que Jésus, quand il est venu sur la terre, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, il a pris des mains de Satan les clés du séjour des morts. Et il vous les a données. Et après, il a dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Vous avez l'autorité. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Parce que ce qui est fait dans les cieux, c'est fait par Jésus. Il est venu avec son sang dans les cieux, il a purifié les cieux. Et les cieux sont ouverts pour nous. Mais sur la terre, il y a encore un combat à vivre. Et ce combat, c'est nous qui le menons et qui avons à prendre position. C'est pour ça qu'il nous a appris à prier, eh bien, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Qui va faire la volonté de Dieu sur la terre ? Le peuple de Dieu. Amen. C'est toi, c'est moi. Et on est appelé à régner et on a cette autorité. Alors, t'es bien gentil, tout ça, mais quand on est dans la mouise, on est dans la mouise. Ben non, on n'y est plus. On appartient à Jésus. On est dans le royaume de Dieu. On a changé de royaume. On a été arraché du royaume de la mouise et des ténèbres, et on a été transporté, et dans le transport, vous êtes passé dans la machine à laver. On a enlevé tout ce qui était de la mouise et on vous a transporté dans le royaume de la lumière. Tadam ! Amen. Et vous êtes de ces gens-là qui rayonnaient la gloire de Dieu. Et ça, c'est drôlement important. Alors, je vais partager avec vous un passage biblique que j'aime particulièrement parce que ça nous raconte comment il y a eu une percée spirituelle des cieux sur la terre, de la terre dans les cieux. Et j'aime beaucoup ça parce qu'on peut s'approprier, parce que c'est une histoire d'homme, elle nous est racontée dans la Bible. Et je vais la commenter en même temps que je vous la lis. C'est l'histoire d'Israël, et Israël est en guerre avec les Philistins. Mais il y a quelque chose d'étonnant, c'est que, eh bien, Israël qui s'était mis en campagne de guerre, ils n'avaient pas une épée. Où ils en avaient peut-être deux dans toute l'armée. Et pourquoi ? 1 Samuel 13, verset 19, « On ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit, « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. » Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son hoyau, sa hache et sa bêche. Et quand le tranchant des bêches, des hoyaux, des tridents et des haches était émoussé, et pour redresser les aiguillons. Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée, ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan son fils. Un poste des Philistins vint s'établir au passage de Michmash. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les Philistins avaient une stratégie. La stratégie, c'était « on va piquer » tous les forgerons qui sont dans le peuple d'Israël, de manière à ce qu'ils ne puissent pas se faire d'armement. C'est exactement la même stratégie que le diable utilise aujourd'hui. Il ne veut pas que vous vous approchiez de la parole de Dieu. Il veut que vous mettiez en oubli les promesses que le Seigneur vous a faites. Il veut que vous soyez découragés sans penser à la réalité de sa parole qui est vivante et efficace. Amen. Et Hébreux 4, 12 nous dit quoi ? Que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager la moelle de la jointure, l'âme de l'esprit. Elle juge des pensées et des sentiments du cœur. Amen. La parole de Dieu est vraiment une épée. Et elle est forgée, vous savez par quoi ? Elle est forgée par le feu de l'Esprit de Dieu. Et il n'y avait ni forgeron, ni fer, ni feu en Israël, dans ce sens où, eh bien, ils avaient laissé s'endormir tout leur arsenal et tout leur héritage. Et les Philistins avaient confisqué ça. Et il y avait juste Saül, le roi, et Jonathan, son fils, qui avait une épée et une lance. Alors, est-ce que la situation était désespérée ? Quelque part à vue humaine, oui. Et même Saül, le roi Saül, était complètement découragé, si bien qu'il a déconnecté, il a fait des bêtises, et au lieu de suivre ce que Dieu lui demandait de faire, il est rentré dans un chemin de désobéissance, et il a communiqué quelque part son découragement à toute son armée. Mais voilà, Dieu avait un plan. Et ce plan, c'était la percée spirituelle de Jonathan. Et mes amis, nous allons faire des percées spirituelles. Appelle ton voisin, ta voisine, mon cher Jonathan. Fais ta percée. Et on va lire le passage suivant, 1 Samuel 14. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, poussons jusqu'au poste des Philistins qui est là de l'autre côté, et il n'en dit rien à son père. » Saül se tenait à l'extrémité de Gibéa, sous le grenadier de Migron, et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. Achija, fils d'Achitub, frère d'Ichabod, fils de Phinès, fils d'Élie, sacrificateur de l'Éternel à Silo, portait l'éphod. Le peuple ne savait pas que Jonathan s'en fût allé. Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté, une dent de rocher de l'autre. L'une portait le nom de Botser et l'autre celui de Séné. L'une des dents est au nord vis-à-vis de Micmash, l'autre vis-à-vis de Geba. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Alléluia. Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment, me voici avec toi, prêt à te suivre. » Eh bien, dit Jonathan, « Alors allons à ces gens et montrons-nous à eux. S'ils nous disent, arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent, montez vers nous !» Nous montrons, car l'Éternel les livre entre nos mains, c'est là ce qui nous servira de signe. Ils se montèrent tous deux au poste des Philistins, et les Philistins dirent, « Voici les Hébreux qui sortent des trous où ils se sont cachés. » Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes, « Montez vers nous, et nous vous ferons savoir quelque chose. » Jonathan dit à celui qui portait ses armes, « Monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. » Étonnant, Jonathan donc monte vers les Philistins et dit à son serviteur qui portait les armes derrière, « Monte derrière moi. » Donc quand il va arriver là-haut, il n'a pas d'épée, il n'a pas de lance, c'est le serviteur derrière qui a la lance et l'épée. Dans cette première défaite, Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Dans cette première défaite, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. L'effroi se répandit au camp, dans la contrée et parmi tout le peuple. Le poste de ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante, c'était comme une terreur de Dieu qui se répand. Amen. On peut lire encore la suite, elle est merveilleuse, je vous encourage ce soir, cet après-midi à lire la suite, c'est extraordinaire. La terreur de Dieu se répand simplement par l'obéissance de deux hommes. Ils font une percée spirituelle à un moment stratégique où tout semble défavorable, non seulement pour eux, mais pour l'ensemble de leurs concitoyens du pays entier. Et en France, on peut dire qu'on est un pays extrêmement béni, riche, etc. Mais spirituellement, on est dans un véritable désastre spirituel. On est dans un désastre et une mouise terrible. Est-ce qu'on va se taire en tant que peuple de Dieu? Est-ce qu'on va se taire dans notre travail? Est-ce qu'on va se taire dans la rue? Est-ce qu'on va se taire parce qu'on est dans la laïcité? La laïcité, c'est le droit d'échanger, de débattre nos idées, de débattre même dans la rue et d'apporter la lumière du salut. Amen. On a la liberté encore et travaillons aujourd'hui tant qu'il fait jour. Qu'est-ce qui se passe pour David et Jonathan ? C'est la percée spirituelle, c'est ça qui est extraordinaire. Les forgerons des temps modernes, eh bien, mes amis, c'est ce que Dieu a donné à l'Église, Éphésiens 4, 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, docteurs, pasteurs. Il y a 5 ministères au service de l'Église qui forment, qui forgent des armes, qui donnent des armes dans l'arsenal de Dieu. Et nous, on a la chance d'être dans une des églises où précisément les anciens qui sont au-dessus de nous, eh bien, c'est des équipes de forgerons. Parce que dans ces équipes qui sont au-dessus de nous, qui nous conseillent, il y a les 5 ministères qui sont représentés. Et quand on reçoit la visite de Téphiri, on reçoit la visite d'un évangéliste et aussi d'un docteur. Et il a la puissance quelque part de nous enseigner avec autorité et de nous encourager à l'évangélisation. Et comme par hasard, c'est ce dont nous avons besoin. Et quand nous avons besoin d'un conseil apostolique, eh bien on peut faire appel à un apôtre. Et quand on a besoin d'un conseil prophétique, on peut faire appel à un prophète. Et on est en train d'être forgé par l'Esprit de Dieu au travers de ses serviteurs qui sont des forgerons. Et c'est ça ce qui fait notre force. C'est ça ce qui nous donne de la cohésion. C'est ça ce qui nous donne de la puissance. Le Saint-Esprit nous équipe en vue du combat et il a prévu des forgerons pour notre Église, dans notre famille d'Église. Et on a à recevoir ces choses et à les mettre en pratique. Il ne faut pas les mettre en oubli. Alors, nous, on a les armes. Comment on va les développer ? Comment on va faire le coup d'éclat style Jonathan et son serviteur ? Eh bien, comme on a les armes, la première chose, c'est de savoir ne pas être rempli de l'esprit de ce monde, ne pas être rempli de la crainte, de la peur des hommes. Saül, le roi, était rempli de la peur des hommes et quelque part, il a fait des bêtises. Mais Jonathan, son cœur était tourné vers le Seigneur. Et il a dit, « Je sens que le Seigneur me pousse à aller ». Et voyez, la marche du chrétien, c'est toujours une marche en avant. C'est jamais un immobilisme, c'est toujours quelque chose qui nous emmène plus loin et qui exerce notre foi. Mais est-ce que Jonathan est parti tout seul ? Non, il s'est mis d'accord avec son coéquipier, son serviteur. On est toujours au moins 2 dans une percée spirituelle. Et j'encourage les papas, les mamans, les couples à se mettre en accord, en union, en unité, parce que vous êtes une puissance redoutable d'unité. Quand vous vous mettez d'accord, les portes commencent à péter les plombs devant vous, le chemin est tracé, vous êtes en train de dégonder tout ce que le diable a mis de travers devant vous. Amen. Et ça, c'est important. Et si vous n'avez pas de mari ou de femme, si vous êtes célibataire, eh bien, mettez-vous en accord avec un autre célibataire. Ou un couple, pourquoi pas, hein. Plus on est, mieux c'est dans l'unité. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, Jonathan, il a transmis la vision qu'il avait du Seigneur à son serviteur. Il a dit, « Ouh, je sens que Dieu nous pousse à confronter là ce poste de Philistin, on va aller les évangéliser. » Hein, c'est le Hellfest, alléluia, bonne occasion, on va y aller. Hein. Là, bientôt, il y a quoi ? Le mondial de rugby, alléluia, on va les confronter, non pas les rugbymen, mais les sportifs en herbe qui vont supporter leur équipe. Moi aussi, je vais mettre mon casque avec mes pattes de poulet bleu, blanc, rouge. Je vais supporter l'équipe, mais d'un autre côté, je veux gagner le match pour Jésus. Amen. Je veux transformer l'essai pour la gloire de Dieu. Amen. Je veux plaquer l'ennemi au sol qui ne bouge plus. Amen. C'est ça qu'on est appelé à vivre et à faire de la part de Dieu. Et c'est bon pour nous de regarder l'arsenal qu'on a avec nous, les épées, les boucliers, tout ça. Et quand on veut faire une percée spirituelle, on fait le bilan de tout ce qu'on a. Et on n'avance pas tout seul. Jésus a frayé le chemin, amen, il nous instruit, mais il faut qu'on se mette d'accord dans la prière pour marcher et pour aller de l'avant. Et qu'est-ce qui se passe toute la semaine? Il y a des gens qui prient dans l'église. Il y a des gens qui prient et qui tracent la route et qui disent, voilà, on appelle sur la nation de France, on appelle sur le gouvernement. Cette semaine, on a eu la prière pour Israël. On a appelé, qu'est-ce que c'était, sur la jeunesse qui était engagée au service militaire, les Israéliens. On a appelé que la gloire de Dieu réveille leur cœur, qu'ils rentrent dans leur héritage de bénédiction, que la peur de la mort les quitte et qu'ils se tournent vers Yeshua, leur sauveur. On a appelé de la bénédiction sur eux. Les intercesseurs font des choses incroyables. Ils bousculent les portes, ils ouvrent les portes, ils terrorisent le diable. Alors le diable, il peut toujours fanfaronner. Regardez, montez vers nous là, vous qui êtes sortis du trou là. On va vous montrer quelque chose. Mais nous, on répond, nous on connaît la fin. On sait que Satan, il est vaincu. Amen. Et nous grimpons. Et nous grimpons. Et quand nous grimpons, ça veut dire que nous ne nous confions pas, non, dans nos forces, ni par puissance, mais nous nous confions par l'Esprit de l'Éternel. Amen. Nous venons par l'Esprit de l'Éternel confronter l'ennemi. Et c'est intéressant de voir ce positionnement de Jonathan et de son serviteur, c'est qu'il monte. Là où le diable voulait dominer, nous montons vers le Seigneur pour confronter l'ennemi, non pas sur le terrain de l'ennemi, mais sur le terrain de Dieu. Parce que Dieu a dit « Allez ». Et pour Jonathan et pour son serviteur, Dieu leur a dit « Allez ». Et qu'est-ce que Jonathan ? C'était un homme rempli de la connaissance de la parole de Dieu. Jonathan, il se rappelait les juges, il se rappelait Gédéon. Il se rappelait Gédéon, Dieu avait dit à Gédéon, rien n'empêche de sauver le peuple au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Et c'est ce que Jonathan, il ressort à son serviteur. Il lui dit, rappelle-toi la parole, on n'est peut-être que deux, mais si Dieu est avec nous et Dieu est avec nous, eh bien on va les vaincre. Et quand Jonathan monte, c'est pas vers le poste des Philistins qu'il monte. Il monte vers le Seigneur, il monte vers son Dieu, il monte avec la force de Dieu. Et plus il grimpe, plus il est saisi par l'Esprit du Dieu vivant. Et plus vous avancez dans la foi, plus vous êtes saisi par l'Esprit du Dieu vivant. Et quand vous vous présentez face à l'ennemi, l'ennemi, il ne peut pas tenir, il tombe devant vous. Alors, est-ce que c'est suffisant que l'ennemi tombe ? Ben non. Il faut l'achever. Et c'est pour ça que tout seul, vous ne pouvez pas tout faire. Il avait le serviteur avec qui il s'était mis d'accord, le serviteur qui portait ses armes. Et Jonathan, il se présente, taf, le premier soldat tombe. Ah, excuse-moi, je te marche un peu dessus, mais t'es pas mort, mais c'est pas grave, vas-y, tu peux y aller. Et là, l'autre, il le finit. On est appelé à détruire les œuvres du... Amen. Et ça peut se faire non pas tout seul, mais ça se fait quand on est en équipe à deux et qu'on marche dans l'unité du Saint-Esprit. Parce que les deux, ça représente déjà l'unité de l'Église, la force de Dieu dans l'Église. Et c'est quelque chose de la victoire de Dieu. Il travaille en codépendance. Et ça, c'est drôlement important. Il faut être dans cette unité. Jonathan se présente, il confronte l'ennemi sur le terrain de Dieu, pas sur le terrain du diable. C'est lui qui emmène le poste des Philistins, des mécréants, sur le terrain de Dieu. Et si bien qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il y a une vingtaine de soldats dans le poste, il les égouille tous. Moi, je ne sais pas si j'arrivais en Ukraine avec les Russes, tout ça, qu'on me disait, vas-y, ouais, moi je reste dans la tranchée, tranquille. Là, c'était exactement la même chose, sauf que là, Et il sort de la tranchée, il y va tranquille, enfin tranquille, je ne sais pas, mais avec foi en tout cas. Et plus il avance, plus la gloire de Dieu se manifeste. Et non seulement il est rempli de la gloire de Dieu, mais c'est comme s'il était un catalyseur ou un multiplicateur plutôt. La gloire, elle va aussi derrière sur son coéquipier. Et vous êtes des modèles. Vous êtes des modèles pour vos enfants. Ce que vous allez vivre cette année, vos enfants vont le reproduire. C'est la loi de la dîme. On l'a vu. La semence, elle va se multiplier. Est-ce que vous voulez vivre vraiment dans la victoire? Eh bien, c'est quelque chose où vous devez décider de votre destinée dans la main de Dieu. Est-ce que vous voulez vous laisser marcher dessus? Frotter les pieds, le diable, sur le paillasson que vous êtes? Ou est-ce que vous êtes non plus le paillasson, mais vous êtes les héros de Dieu qui vous levez parce que vous avez été à l'arsenal vous saisir des armes de Dieu, des promesses de Dieu. Vous vous êtes laissé, forgé par les forgerons. Vous êtes devenu une arme redoutable dans la main de Dieu et vous pouvez aller de l'avant parce que l'ennemi va tomber devant vous. Pourquoi Jésus enseigne la prière en disant « Notre Père, que ton nom soit sanctifié, etc. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Parce qu'elle est déjà faite dans les cieux. Donc sur la terre, le boulot, Jésus, il est là-haut maintenant. C'est à nous de l'accomplir. C'est à nous de confronter. Mais on ne peut pas confronter par nos propres forces. On peut confronter que par l'Esprit de Dieu. Et on voit que Jonathan, il s'appuie sur la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Rien n'empêche de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand. Et il a en souvenir juge la victoire de Gédéon. Et il est poussé par le Saint-Esprit et son collègue, qui est son serviteur, et il l'interviewe, il dit « Qu'est-ce que t'en penses, toi ?» Et le serviteur dit « Mais va, je sens que le Saint-Esprit est là, fais tout ce que tu as sur le cœur. Moi, je suis ton supporter, je suis avec toi, je suis un seul cœur avec toi, et là où tu vas, moi je suis. » Amen. Et c'est vrai que souvent on dit quand il y a deux évangéliques ensemble, ben, il y a deux églises qui naissent parce qu'ils ne savent pas se mettre ensemble. Ben, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, vous êtes redoutables et on est peut-être un petit nombre et peut-être à Vannes ils sont encore un plus grand petit nombre, mais vous êtes redoutables. Amen. Celui qui suit, il exerce le ministère de la délivrance. Ils sont tous les deux persévérants dans l'action et ils marchent dans la victoire. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a unité et travail en équipe? Eh bien, il y a le conseil de Dieu qui se répand sur la terre. Et pour le diable, c'est quoi le conseil de Dieu qui se répand sur la terre? C'est la terreur. Il y a une terreur qui vient frapper toute la nation, tout le pays. Incroyable! La terreur se répand devant les Israélites. Tout le camp des Philistins est en émoi. Ils vont tirer l'épée les uns contre les autres et ils vont être vaincus. Alors qu'ils sont plusieurs milliers de milliers, il y a 600 Israélites qui sont là, qui n'ont pas d'épée, ils vont les vaincre. Impressionnant! Il y a quelque chose qui se passe. Quand Jésus est mort à la croix, il y a quelque chose qui était étonnant. Il y a eu quoi ? Des ténèbres sur toute la terre. Il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu des choses qui se sont passées sur la terre. Parce que quelque part, on était en train de dépouiller les ténèbres de leur autorité et de leur pouvoir. Et cette autorité qui a été donnée à Jésus, Jésus nous l'a transmise afin que nous aussi, partout où nous allions, eh bien nous apportions cette lumière, cette grâce. Amen. Moi je prie pour que Cyril, il fasse des résurrections. Amen. T'es d'accord Cyril ?
Pas toujours.
Bon, ils sont pas toujours frais, d'accord. Bon, Cyril, il travaille dans un cimetière. Mais quelque part, pourquoi pas? Osons penser des choses, osons rêver des choses que Dieu nous met. Quand vous arrivez au travail ou dans les lieux d'opposition, comme on a entendu tout à l'heure, c'était fermé partout, il n'y a pas de travail pour toi, il n'y a pas de poste. Eh bien, dites non, là je suis arrivé, hop, là, je rentre, tac, tac, c'est la gloire de Dieu est là. Amen. La lumière de Dieu est ici. Ah, ils peuvent être menaçants, oui, bon, bah d'accord, ok. Mais moi, je sais que le Saint-Esprit est en train de se répandre. Le parfum d'amour que Dieu a mis dans mon cœur est en train d'exhaler. La puissance du Saint-Esprit est là. Parce que je ne marche pas en mon propre nom. Je ne marche pas avec ma force. Je marche au nom de l'Éternel des armées. Amen. Et je marche par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alors voilà, je voulais avoir ces quelques pensées ce matin avec vous. Il y a plein de choses que vous pouvez retenir dans ces quelques paroles d'encouragement, mais ce qui est important surtout, c'est que vous n'alliez pas au-delà de ce que Dieu vous demande. Vous restez dans le camp de Dieu. Et quand vous restez dans le camp de Dieu, eh bien, quelque part, le diable ne peut pas vous toucher. Et quand vous avancez avec le plan de Dieu, alors vous amenez le royaume de Dieu. Vous amenez le royaume de Dieu. Une fois, je suis rentré dans une chambre de malade, je me rappelle, je venais pour annoncer le royaume de Dieu, et je dis, voilà, je suis aumônier. Le gars m'a insulté, m'a agonisé d'insultes, etc. Il me dit, comment c'est possible, dans une clinique, la laïcité, le respect, le ceci, le cela. Et puis il m'a dit toutes sortes de noms d'oiseaux. Et je lui dis, bah, écoutez, je m'excuse de vous avoir dérangé. Voilà, je m'en vais. Je vous souhaite de bons rétablissements et une bonne santé. Et puis, au revoir. Et puis, le Saint-Esprit m'a parlé et il m'a dit, sois pas découragé. J'ai été frappé à la porte du cœur de cet homme. Et les esprits qui sont en lui ont réagi. À quoi voulons-nous nous arrêter? Est-ce que c'est « Ah, mon ministère est foutu, j'ai pas su parler à cet homme, j'ai pas su l'aborder, je me suis fait agoniser d'insultes, je vais mettre 3 mois pour m'en remettre. » Le Saint-Esprit a frappé à la porte du cœur. Amen.
Amen.
Amen. Donc, on ne regarde pas avec nos yeux. On regarde avec les yeux de Jonathan, on regarde avec les yeux de l'Esprit. Ce que le Saint-Esprit te demande de faire, accomplis-le promptement. Fais-le avec foi. Mets-toi en accord dans la prière avec ton frère, ta sœur, ton épouse. Va pas tout seul, va en équipe. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Parce que Dieu va faire une percée spirituelle cette année, dans notre église, dans l'église de Vannes, va faire une percée spirituelle dans vos familles, dans votre travail, dans votre retraite. On est des gens qui sont des porteurs de bénédictions. Partagez vos âmes avec votre serviteur. Mettez en commun vos richesses et Dieu va multiplier. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, vous fasse du bien, permette de marcher dans l'unité. Dans la transparence, on n'est pas des gens des ténèbres, nous sommes des gens du royaume. Jésus, tu as ouvert la route dans les cieux et tu nous as donné ton autorité pour que nous tracions la route sur la terre. Et Seigneur, nous voulons être de cette église qui te dit oui et amen. Nous voulons être de ces églises qui disent que nous portons ton nom, Seigneur, et que nous allons dehors pour porter ta lumière, Jésus. Nous ne voulons pas garder pour nous. Nous ne voulons pas retenir pour nous, nous voulons partager et multiplier ta gloire, Seigneur. Que l'ennemi tombe devant nous, Seigneur. Qu'il soit achevé, parce que tu as achevé ton ouvrage à la croix, Seigneur. Tu es le ressuscité, Seigneur. Tu as les clés du séjour des morts et tu as les clés du séjour de la vie. Seigneur, permets-nous d'œuvrer sur la terre afin que toi, Jésus, tu reviennes vite. Maranatha, Seigneur, viens régner au milieu de cette terre, rétablir toute chose, Seigneur. Permettre que ton royaume soit restauré. Nous appelons cette nouvelle Jérusalem à descendre des cieux. Nous appelons la révélation du Fils de l'homme à renouveler toute chose dans la nature, Seigneur. Amen.